Et c'est donc un des spectacles les plus inouïs que l'homme puisse observer dans la nature, la danse des aurores polaires, un phénomène impressionnant, un voile lumineux plus brillant que tous les astres du ciel nocturne et qui visible dans les pays proches des pôles, derrière leur aspect enivrant et poétique, eh bien ces rideaux fantomatiques sont les témoins, on le verra, des activités du soleil. Et pour leur recherche, mes invités ont longuement étudié les aurores boréales et australes. Ils vont nous raconter comment elles naissent, ce qu'elles nous apprennent du soleil et comment on peut les observer. J'attends dès maintenant vos messages, peut-être vos témoignages avec vos propres observations et vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
C'est le glyphosate, cet herbicide le plus vendu au monde qui est aujourd'hui à la une de la science.
Oui Mathieu, une initiative citoyenne en faveur de son interdiction recueille plus d'un million de signatures et dans un même temps, la Commission européenne songe à renouveler son autorisation pour 10 ans. Le feuilleton glyphosate, c'est dans un instant.
Et Stéphanie Texier est aux commandes de notre Tête au carré, préparée par Benoît Tonson avec Chantal Le Montagnier.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Des aurores polaires, donc, dans un instant, dans notre dossier, avec mes invités que je salue en studio avec moi à Paris, l'astrophysicien Fabrice Mottez. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et puis en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble, Jean Lilenstein. Bonjour à vous. Jean Lilenstein, je crois que vous êtes en ligne avec nous. On va vous retrouver en tout cas dans un instant. Fabrice Mottez, on peut voir des aurores polaires en France alors ou pas?
Ça peut se produire, à condition d'avoir de la chance. Je dirais que dans les 5 années à venir, il y en aura probablement. Et simplement, il faut être au bon endroit au bon moment. Oui, c'est tout ça le problème.
Ben oui, et comment on peut le savoir alors justement?
On peut pas le savoir, c'est la surprise.
Bon, ça vous est arrivé d'en voir, vous, depuis la France ou pas?
Ça m'est arrivé d'en voir une en France, dans le midi en plus, ce qui est assez rare. Alors que j'étais étudiant, j'étais au lycée, j'étais pas du tout spécialiste des aurores, mais je l'ai noté et depuis j'ai relu mes notes et je me suis convaincu que c'en était.
Ben écoutez, tant mieux.
C'était une toute petite.
Jean Lilenstein, vous êtes avec nous, on vous a retrouvé. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ces aurores polaires, c'est le produit direct des activités du soleil?
Absolument, c'est l'interaction entre l'activité du soleil, le champ magnétique d'une planète et son atmosphère.
Vous avez été tous les deux témoins évidemment de ce phénomène incroyable, vous en avez d'ailleurs écrit des ouvrages, on va en parler dans un instant, pour explorer donc ces aurores avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, franceinter.fr.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et de devenir des désherbants à base de glyphosate en Europe, un véritable feuilleton à rebondissement, résumé des épisodes précédents et nouvelle saison à la une de la science aujourd'hui.
Voilà. Mais pourquoi ils m'ont chassé? J'étais un désherbant reconnu, j'ai toujours été pro.
Pleure pas.
J'ai toujours fait mon boulot. Je voulais tant que mon père soit fier de moi.
Mais t'as pas de père, t'as un glyphosate.
C'est vrai, ça n'a pas de père, un glyphosate.
Quoi? En plus, j'ai pas de père.
Voilà l'initiative citoyenne européenne lancée en février dernier par le collectif Stop Glyphosate contre ce désherbant en faveur d'une meilleure évaluation des produits chimiques en général qui vient de dépasser le million de signatures, un cap important qui oblige légalement la Commission européenne à apporter une réponse aux ONG au moment même où elles songent à réautoriser l'herbicide pour 10 ans. François Veyrette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'association Génération Future. Hervé Kempf nous a rejoint comme tous les lundis pour reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Les 6 prochains mois vont être décisifs. Hervé, aussi bien pour Monsanto que pour les ONG au sujet du glyphosate, alors?
Oui, puisque cette initiative européenne pour les citoyens a été lancée et a recueilli plus d'un million de signatures. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien d'un processus mis en place par les institutions européennes depuis le traité de Lisbonne et qui dit si plus d'un million de citoyens européens venant de plusieurs pays, 5 pays, demandent à la Commission d'examiner un sujet, eh bien la Commission est obligée de le faire et d'agir. Mmh. Il y a déjà eu trois de ces initiatives citoyennes. Sur l'eau, sur le taffetas. Jusqu'à présent, ça a échoué. La Commission n'a pas suivi ce que lui demandaient les citoyens. Là, pour le glyphosate, il y a eu 1 million de signatures qui sont venues très rapidement, en moins de 5 mois. Elles vont être déposées en juillet. Il y a une telle pression qu'il serait difficile pour la Commission européenne de ne pas réagir à ça. Un élément qui a joué, c'est amusant, si on peut dire, c'est surtout en Allemagne que les pétitionnaires sont venus. Et aussi, depuis quelques mois, quand il y a eu une étude qui a montré qu'on trouvait dans la bière 300 fois plus de glyphosate que les normes autorisées.
Là, ça a signé. Là, ils ont signé la pétition.
Et là, ça a signé. Alors, on a aussi trouvé en France dans de l'urine de 30 personnalités, dont Charline Van Honecker, que connaissent sans doute les auditeurs de France Inter.
Bah oui, bien
beaucoup
sûr.
D'urine, beaucoup de glyphosate dans l'urine. Et donc, il y a un vrai problème que va nous expliquer François Veyrette.
Alors, François Veyrette, Génération Future soutient cette initiative. Quelle est la suite pour cette ICE, maintenant que le million est atteint, le million de signatures?
Alors, il faut déjà que les signatures soient vérifiées, parce que c'est pas une pétition ordinaire, cet ICE, hein, c'est un document officiel, un acte officiel, et donc la commission, les États membres plutôt vont vérifier pour la commission l'ensemble des signatures. Alors ça peut être assez long, puisque il y a des signatures électroniques, mais aussi des signatures sur papier. Les exigences en termes administratifs sont un peu différentes selon les pays. En France, il y a une exigence extrêmement élevée, vous devez même laisser votre numéro de carte d'identité. C'est aussi pour ça qu'il y a un peu moins de signataires qu'en Allemagne, où les exigences administratives étaient un peu plus lâches. Il n'y a pas que la
bière. Combien en France ?
On a passé les 60 000.
Alors, quelles sont les demandes précises de cette initiative ?
Il y a trois demandes de base sur cette initiative citoyenne européenne. Une demande qui concerne le glyphosate proprement dit, hein, donc en demandant le non-renouvellement de son autorisation. L'initiative citoyenne demande aussi qu'on prenne en compte l'ensemble des études scientifiques universitaires publiées sur les pesticides dans les dossiers d'autorisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, troisième point, on demande qu'il y ait pour chaque État membre de l'Union un plan de réduction de l'usage des pesticides avec des objectifs chiffrés. Aujourd'hui, c'est une condition qui n'est pas remplie. Il n'y a que la France, d'ailleurs, qui a un plan avec des objectifs chiffrés, objectifs qu'elle n'arrive pas à atteindre, mais au moins le plan existe.
Au niveau de l'Europe, au niveau de la Commission, où en est le dossier glyphosate, si on peut dire ça comme ça ?
Alors, le dossier glyphosate rentre dans sa phase finale. Il y a eu un dernier avis de l'Agence européenne pour les produits chimiques, qui, comme l'EFSA, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, a conclu à l'absence de risque. Donc on a une approche complètement différente des agences et des scientifiques universitaires, parce que le Centre international de recherche sur le cancer, lui, a revu l'ensemble des littératures scientifiques universitaires publiées, un millier d'études, en se basant, en évaluant, comme c'est la norme dans ce cas-là, le potentiel cancérogène. Et donc ils ont déduit que le produit glyphosate était probablement cancérogène pour l'homme, sur la foi de preuves avérées sur l'animal et de suspicions fortes sur l'être humain. Mais les agences, elles, sont plutôt dans une démarche d'évaluation du risque. Et donc forcément, on a des avis qui sont différents. Le problème, c'est que la législation européenne, elle prévoit d'exclure n'importe quel pesticide s'il est certainement ou probablement cancérogène, mutagène, toxique pour leur production ou perturbateur endocrinien. Donc il s'agit bien d'évaluer le potentiel de dangerosité de la substance et pas de faire de l'évaluation du risque à ce niveau-là. Et donc là, on a vraiment des approches différentes qui font qu'on a un tel hiatus entre les positions des agences et la position du Centre international de recherche du cancer.
Ça n'est qu'une question d'approche, François Vaillerette ?
Il y a une question d'approche et puis après une question de lecture de la science également, parce qu'il y a une très très grosse polémique sur la façon dont les études disponibles même sont lues et interprétées. En fait, il y a différents niveaux de problèmes. Il y a des études qui ne sont pas présentes dans les dossiers d'évaluation, ce qui est déjà une faute par rapport aux exigences du règlement, puisque normalement, la firme qui veut faire réévaluer son pesticide doit mettre dans le dossier toutes les études universitaires concernant son produit parues les 10 années précédentes. En réalité, nous on a regardé pour 6 ou 7 molécules avec mes collègues du réseau européen Selection Network Europe, il y en avait à peu près un quart des études, en moyenne, avec des très grosses différences selon les produits. Ça veut dire que les études sont parfois même absentes des dossiers, et quand elles sont présentes, les études universitaires en fait sont jamais prises en compte. Ça paraît ahurissant, mais je vous jure qu'on a pu le constater, et il y a une raison à ça, c'est qu'il y a un système de classement de la qualité supposée des études qui est basé donc sur une échelle qui a été adoptée, une échelle d'ailleurs réalisée par un toxicologue d'une firme d'agropharmacie, hein, une firme qui fabrique des pesticides, et qui part du principe que les meilleures études sont les études qui suivent ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire. Des pratiques avec des contraintes très lourdes en matière d'enregistrement, des données, et ce sont des normes que les universitaires, en général, ne suivent pas. Ça n'amène pas de qualité scientifique supplémentaire, simplement, c'est extrêmement coûteux, extrêmement lourd. Donc, de fait, les études universitaires sont écartées par ce biais-là. Elles sont écartées, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu dans les dossiers qu'on a étudiés une seule étude universitaire qui serve à rabaisser une valeur guide, une norme de toxicité, ou encore moins à interdire un produit. Jamais. Parce que simplement, in fine, sont les études proposées par l'industrie qui sont retenues, parce qu'elles correspondent aux bonnes pratiques de laboratoire.
On se rend compte que le dossier du glyphosate, ce n'est pas le seul qui bloque en termes d'expertise au niveau européen. On peut penser aux perturbateurs endocriniens, par exemple.
Oui, alors, les perturbateurs endocriniens, effectivement, font référence à la même législation sur les pesticides. Et là, ça concerne une famille de produits, donc il y a de nombreux pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Et là encore, on a un problème avec la science, puisque la proposition de la Commission européenne, qui est aujourd'hui sur la table, est extrêmement mauvaise, dans le sens où elle exige un tel niveau de preuve pour retirer un pesticide qui aura un effet perturbateur endocrinien qu'en fait elle en tirera, si elle était votée en l'état, pratiquement aucun, avec en plus un système dérogatoire qui permettrait à des produits dangereux pour l'environnement de rester sur le marché. Alors que les sociétés savantes d'endocrinologie, toutes ont écrit au chef du gouvernement européen il y a quelques jours d'ailleurs, et disent, mais attendez, cette proposition ne permettra pas de protéger la santé publique en l'état ni l'environnement. Et je rappelle d'ailleurs que les coûts sanitaires ont été chiffrés par les mêmes sociétés savantes à plus de 150 milliards d'euros par an de frais sanitaires directs et indirects, à 150 milliards d'euros par an liés aux effets sanitaires des perturbateurs endocriniens. Donc il faut vraiment agir fortement, sinon on passe à côté d'un objectif de santé publique.
Mais la Commission, elle s'appuie essentiellement sur l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors on voit bien le problème technique et procédural que vous évoquez, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans la démarche de l'EFSA, des problèmes de conflit d'intérêts, de liens avec les agro-industries?
C'est exactement ça, c'est un sandwich, un millefeuille de problèmes qui font qu'à la sortie, on n'arrive pas à déboucher sur l'exclusion de produits chimiques qu'ils mériteraient. La méthode, on en a parlé, et maintenant il y a les conflits d'intérêts. Il y a une ONG bruxelloise qui s'appelle CEO, qui a expertisé les panels de l'EFSA, il a publié un rapport il y a quelques jours, et je crois que c'est à peu près 45% des experts sur ces panels qui ont des liens d'intérêt avec l'industrie. Donc c'est, voilà, ça ne dit pas que ce sont des gens qui sont malhonnêtes, mais ça veut dire que les liens d'intérêt existent dans les panels de l'EFSA, donc c'est quelque chose qui a pu un peu évoluer les années passées, mais apparemment pas assez pour qu'on soit avec des experts totalement et toujours indépendants.
Allez, dernière question,
oui,
Axel.
Au final, François Veillerette, comment obtenir une évaluation à la fois transparente et utile? Parce que là, on voit des évaluations qui se succèdent et qui ne servent à rien pour traiter le dossier.
Alors sur le glyphosate, c'est assez simple. À partir du moment où il est classé comme probablement cancérogène pour l'homme, il ne peut pas être réhomologué. Donc les choses devraient être simples. Simplement, quand le Centre international de recherche sur le cancer a publié son classement, bien sûr, ça a fait l'effet d'une bombe au niveau international, puisque le glyphosate, c'est à peu près un huitième de la vente de tous les pesticides dans le monde. Donc il y a des intérêts considérables. Et aujourd'hui, on a une situation qui est bloquée. D'ailleurs, le sport favori maintenant des lobbies divers et variés, c'est d'essayer de discréditer ce Centre international de recherche sur le cancer en les faisant passer pour une bande d'amateurs, mais pas des scientifiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire, c'est assurer l'indépendance des experts et prendre en compte l'ensemble de la donnée scientifique publiée. La publication dans les revues comités de lecture, c'est quand même le mode de validation de la science. Après, il y a un tri à faire, mais c'est ça qu'on demande. La science, toute la science, c'est pas un tri des études uniquement faites par l'industrie.
Voilà, et donc cette pétition qui se poursuit, hein, Hervé, pour ceux qui
tout à fait,
signer
début juillet, donc le temps est encore, et on en parlera demain sur Reporter.
Voilà, reporter.net, avec un article et un lien vers la pétition. François Veillerette pour l'association Génération Future, merci beaucoup d'être venu. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la reconnaissance du chant chez les oiseaux inscrite dans les gènes. Pour comprendre comment un oisillon apprend et reconnaît les vocalisations spécifiques de sa propre espèce, eh bien des chercheurs suédois se sont livrés à une expérience originale. Ils ont interverti dès la naissance les oisillons de deux espèces très proches de gobe-mouches. De petits gobe-mouches noirs ont été placés dès leur éclosion dans le nid de leur cousin gobe-mouche à collier et inversement. Et bien après 10 jours passés dans le mauvais nid, les chercheurs ont testé sur eux l'effet des vocalisations de leurs parents biologiques contre celles de leurs parents adoptifs. Résultat, les oisillons restent beaucoup plus sensibles aux vocalisations de leurs propres parents alors qu'ils ne les ont concrètement jamais entendus chanter. Une preuve pour les chercheurs que le chant de chaque espèce est inscrite d'une manière ou d'une autre dans l'ADN de ces oiseaux. Une application pour aider les chercheurs à trouver les recherches intéressantes parmi la masse de publications inspirées d'une application de rencontre, Tinder. Paper, c'est son nom, propose en effet de balayer les publications d'un domaine en quelques clics. Imaginez donc pour permettre aux chercheurs et doctorants de classer, identifier les travaux avant même qu'ils soient publiés. Paper propose, après lecture d'un court résumé anonyme, de classer la recherche parmi 4 catégories, probable, critiquable, intéressant ou ennuyeux. Une démarche vivement critiquée par une partie des chercheurs depuis son lancement, mais à noter quand même une première tentative à destination des chercheurs qui peinent à suivre toute l'actualité scientifique dans leur domaine. Et puis enfin, on l'apprenait ce week-end, le professeur Christian Cabrol, pionnier français de la chirurgie cardiaque, s'était éteint vendredi à l'âge de 91 ans. Il avait réalisé le 27 avril 68 la première greffe cardiaque d'Europe à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Fils de paysan, petit-fils de médecin de campagne, il avait dédié sa vie à la chirurgie cardiaque. Il a totalisé plus de 1500 greffes tout au long de sa carrière. Écoutez sa voix au professeur Cabrol en 68, après la première transplantation. Il était au côté de Maurice Mercadier, son chef de service à la Pitié.
Messieurs, je crois qu'il faut là que je laisse la parole au professeur Cabrol et à messieurs Guiraudon, si vous voulez vous mettre ici. Cabrol, vous pouvez répondre.
Et nous avons utilisé la méthode Barnard En ce qui concerne les sutures et les anastomoses, en ce qui concerne la préservation du cœur greffé, nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Voilà, c'était la voix du professeur Cabrol, pionnier français de la chirurgie cardiaque, qui est donc décédé vendredi à l'âge de 91 ans. Les aurores polaires dans un instant. You feel like the president, sweet power and influence. Oh baby, we all see the obvious. You worked hard for your money and your confidence. Baby, yeah, it's irrelevant. Oh, baby, yeah, it's irrelevant. Swim against, swim against, against the tide. Walk against the flow. Swim against, against the tide. Walk against, against the flow. Mais her à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Voilà, aurore polaire cet après-midi dans le dossier de l'émission pour parler donc de ces spectacles incroyables à voir donc sur Terre et qui nous arrivent du Soleil. Fabrice Mottez, vous êtes astrophysicien à l'Observatoire CNRS de Paris-Meudon et vous publiez Aurore polaire, la Terre sous le vent du Soleil, c'est aux éditions Belin. Et puis Jean-Louis Lundsten, vous êtes en duplex de Grenoble, astrophysicien également, planétologue à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez publié entre autres en 2016 La lumière en lumière du photons à l'internet chez EDP Science. Et puis vous avez également ce livre Chasseur d'aurore qui est publié aux éditions de La Martinière avec les auditeurs qui nous rejoignent, les messages et les questions et probablement même les observations et les témoignages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Est-ce que d'abord tous les deux vous avez eu l'occasion de voir beaucoup d'aurores polaires au cours de votre carrière, Fabrice Mottez, pour commencer?
J'ai fait une carrière de théoricien sur les aurores et j'ai travaillé avec des gens qui étudiaient essentiellement les données spatiales. Donc j'en ai vu en fait, mais dans le cadre professionnel assez tardivement.
Et vous en avez vu combien à peu près? Vous avez pu les comptabiliser?
J'ai fait 3 voyages où j'en ai vu. Bon. Ce qui, pour un spécialiste, n'est pas si énorme que ça.
Bon, Jean-Louis Le Sten, de votre côté, est-ce que vous faites mieux?
Oui. Ça fait 25 ans que je vais en Laponie et en Arctique au moins 2 fois par an et j'en vois pratiquement à chaque fois. Il s'est arrivé une seule fois que je revienne bredouille, sinon j'en ai vu à chaque fois. Donc je pense que j'en ai vu des centaines.
Ouais. Très différentes à chaque fois ou pas?
C'est pas toujours très différent, mais c'est toujours extraordinairement beau. On peut pas s'en lasser.
Alors décrivez-nous ça justement, Fabrice Mottez et Jean-Louis Le Sten. Ça ressemble à quoi exactement? Parce qu'on voit ces photos qui sont extrêmement impressionnantes, avec ces halos, ces rideaux de lumière, comme vous les décrivez, souvent vertes d'ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on voit avec notre œil humain quand on est sous le ciel de ces aurores?
Quand les aurores sont un peu brillantes, on perçoit moins leurs couleurs, donc les couleurs ont l'air plus pâles que sur les photographies. Quand les aurores sont très brillantes, on les voit quasiment comme sur les photos. Ce qui m'a paru extrêmement impressionnant, et les amis avec qui je suis allé, parce que parfois j'ai vu ça avec des amis, une photo c'est quelques centimètres devant soi, mais quand ça traverse tout le ciel, quand c'est la moitié de ce qu'on peut voir qui est couvert d'aurores, ça prend une dimension fascinante.
Jean-Louis Le Sten, vous confirmez effectivement?
Je confirme, la dynamique est absolument extraordinaire et voir traverser tout le ciel des rideaux d'aurore en quelques secondes, c'est absolument fascinant et impossible à rendre sur des photos.
Ouais, alors pour les couleurs, parlons-en tout de suite. Est-ce que c'est vraiment Jean-Louis Le Sten ce qu'on peut voir à l'œil nu ou pas?
Non. Les photos sont souvent retravaillées pour faire ressortir le rouge. Le rouge, vers 200 km d'altitude, il est très difficile à voir. Il se confond presque avec le noir du ciel et il faut éduquer son œil pour arriver à bien le voir. Le vert est beaucoup plus pâle, comme l'a dit Fabrice, il a raison. Le vert est beaucoup moins intense que ça. Le mauve, par contre, très souvent sur les photos, j'y trouve une ressemblance avec ce que je vois dans la réalité.
Oui, mais alors, ces photos qu'on voit, elles sont trafiquées ou pas, alors?
Moi, je suis pas photographe. Je crois que les photographes ont tendance à laisser leur appareil photo posé pendant quelques dixièmes de secondes. Et puis, quand ils sont ensuite devant leur appareil, devant leur écran d'ordinateur, ils ont tendance souvent à pousser un petit peu les couleurs.
C'est ça, Fabrice Mottez.
Heureusement, à l'Observatoire de Paris, il y a un collègue qui s'appelle Jean Mouette qui a réussi depuis quelque temps à prendre des films d'aurore boréale avec la bonne dynamique et avec les bonnes couleurs. Donc ça y est, on commence à y arriver.
Oui, Fabrice Mottez, on est un peu plus dans les grisés quand même, dans la réalité, c'est ça?
Voilà, mais en fait, l'œil, quand il perçoit des lumières faibles, perçoit mal les couleurs. On a des capteurs sensibles dans l'œil qui fonctionnent la nuit, mais qui ne voient qu'en noir et blanc. Et donc, quand on voit des aurores, les deux capteurs sont activés et ceux qui voient les couleurs sont moins efficaces. C'est pour ça que les couleurs qui sont sur les photos, qui sont des vraies couleurs, sont moins bien perçues par l'œil. C'est parce que l'œil ne voit pas les couleurs la nuit. Tous les chats sont gris.
On va écouter le témoignage d'un photographe, justement. Il s'appelle Philippe Depotier. Il témoignait sur France Culture dans les nuits magnétiques en 1990 autour, justement, de ces aurores.
Et c'est très, très impressionnant. Et on lève la tête et on voit ce spectacle qu'on ne peut pas imaginer. Alors c'est... Dans ces aurores, il y a plusieurs types d'observations qui sont faites, plusieurs types d'aurores. Il y a d'abord les aurores qui sont faibles, c'est-à-dire qu'on distingue à peine une sorte de lueur blanchâtre, sans beaucoup de caractéristiques. Et puis ça peut aller jusqu'à un éclatement total, un flamboiement du ciel, passant par des aurores très très nettes, très lumineuses, qui couvrent la lumière des étoiles environnantes, et qui sont très très perceptibles et très impressionnantes. Et donc ça ressemble à une sorte de feu d'artifice silencieux, passant du blanc au vert au rouge. Et vraiment, c'est un spectacle inouï, et extraordinaire. C'est-à-dire que ça prend aux tripes. Personne parmi les scientifiques sur place n'est resté insensible. Et dès qu'il y avait une aurore, même si c'était en pleine nuit de sommeil, on se levait à 3h du matin pour enfiler nos combinaisons, et c'était prendre du temps, parce qu'il fait très froid là-bas, il fait moins 30, moins 40 en permanence, avec de temps en temps du vent, donc ça multiplie le froid, et malgré ces conditions météo qui sont très dures, parce que quand on est au chaud dans son lit, on est vraiment bien, hein, on sortait, et puis on allait regarder ça, et puis on avait le nez en l'air, dans le silence.
Voilà, description d'un photographe, Philippe Depotier, au sujet de ces aurores boréales. Le spectacle, ça reste toujours aussi émouvant, Fabrice Mottez, quand on se retrouve sous elle.
Philippe Potier a mentionné le silence, c'est très important. C'est un spectacle qui est très impressionnant et en même temps qui est apaisant. Et c'est silencieux, effectivement, et ce silence contribue à l'ambiance.
Ça peut durer longtemps ou pas, Jean-Louis Lundstein, ces aurores? Alors le phénomène en lui-même, on peut l'observer pendant combien de temps?
Pour l'observer, il faut qu'il fasse nuit et il faut se trouver dans la bonne zone. Quand on est en Laponie, on rentre dans la bonne zone qu'on appelle l'ovale aurorale, typiquement vers 7-8 heures du soir. Et puis, pour plein de raisons physiques, le phénomène peut durer facilement jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Il est plus rare que des aurores durent un peu plus longtemps. Mais il m'est arrivé d'observer des aurores toute la nuit. C'est excessivement rare, mais ça arrive.
Oui. En Antarctique aussi, vous y êtes allés tous les deux ou pas, Jean-Louis Lundstein?
Non, moi je suis jamais allé en Antarctique parce que les aurores sont exactement les mêmes en Arctique ou en Antarctique, dans l'ovale aurorale sud ou dans l'ovale aurorale nord, si bien que j'ai un peu des difficultés à convaincre mes tutelles de me payer pour aller si loin alors c'est que ça. Je peux aller plus près pour les voir.
Le voyage est beaucoup plus long. Fabrice Mottez, il y a Larry sur Twitter qui nous demande est-ce que les aurores australes sont aussi fréquentes que les aurores boréales justement, australes donc du sud et boréales du nord.
Oui, comme vient de le dire Jean, les aurores australes et boréales, ce sont deux aspects du même phénomène, c'est les mêmes et c'est la même fréquence. Et non seulement c'est la même fréquence, mais elle se déclenche en même temps.
Mais c'est plus compliqué à voir en Antarctique, parce qu'évidemment voilà. les zones habitées sont beaucoup moins nombreuses.
Il y a peu de zones habitées, elles sont surtout au-dessus de zones maritimes et au-dessus du continent antarctique où les conditions sont très très dures.
Elles nous arrivent du soleil, d'où viennent-elles exactement? Quel est ce mécanisme? On en parle avec vous dans un instant, dans la prochaine partie de notre Tête au Carré et les messages franceinter.fr.
Recto verso, c'est paradis sur France Inter, dans une tête au carré qui s'intéresse aux aurores polaires. Aujourd'hui avec mes invités, les astrophysiciens Jean Lilienstein à Grenoble et avec moi à Paris, Fabrice Mottez, et vos messages sur franceinter.fr. On a ce message qui nous arrive de Taïwan, Jean Lilienstein. C'est Ludovic qui nous dit est-ce qu'on peut entendre une aurore boréale? Alors vous disiez tout à l'heure que non, pas avec les oreilles, dit Ludovic, mais si on avait un poste de radio réglé sur la bonne fréquence, est-ce qu'on pourrait entendre quand même du bruit?
Oui, absolument. Et il y a eu plusieurs tentatives dans cette direction, dont une extrêmement intéressante de Philippe Zarka, qui est un collègue de l'Observatoire de Paris, pour écouter avec les ondes radio les aurores sur Jupiter. Et donc, il existe des aurores sur d'autres planètes. Donc absolument, on peut, avec les bonnes fréquences, entendre, ou plutôt capter les ondes radio émises par les aurores.
Fabrice Mottez.
Les aurores sont des émetteurs d'ondes radio, même celles de la Terre, à une fréquence qui est à peu près la fréquence des grandes ondes, l'ancienne fréquence, enfin, je sais pas si France Inter émet là-dessus, vers 200 kHz.
Non, c'est fini, malheureusement.
C'est fini.
Mais oui.
Et ces ondes ne traversent pas l'ionosphère, donc on les reçoit pas sur Terre, mais depuis les satellites, on capte très bien les émissions radio de ces aurores. C'est d'ailleurs très amusant à écouter, c'est assez joli.
Oui.
Et c'est très étudié aussi par les scientifiques.
Pourquoi?
Pourquoi c'est très étudié?
Oui,
c'est des émissions qui sont faites à quelques milliers au-dessus de quelques milliers de kilomètres au-dessus des aurores, là où les particules qui vont créer ces aurores subissent leur dernière accélération avant d'arriver sur la Terre. Et ces émissions radio sont liées au processus d'accélération et nous apprennent sur le lieu, l'altitude et même les mécanismes d'accélération.
Donc Jean Lilienstein, on peut voir des aurores boréales ailleurs dans le système solaire et vous parliez en particulier de Jupiter. Hein. Je crois que c'est là où on voit les plus belles d'ailleurs, a priori, non?
C'est-à-dire qu'on ne les voit pas dans la lumière visible, il faut des instruments pour le voir. Ça rayonne beaucoup, beaucoup dans l'ultraviolet. Vous savez, l'ultraviolet, c'est ce qui nous fait bronzer. Donc, dans le visible, on ne les voit pas très très bien. Ils sont évidemment à la taille de Jupiter, c'est le maître du système solaire. Ils sont absolument énormes, bien sûr.
Ouais. Et on les étudie également, ces aurores, sur d'autres planètes ou pas?
On les étudie sur toutes les planètes où il y a une atmosphère et un champ magnétique. La plus jolie, à mon sens, parce que c'est celle qui me tient le plus à cœur, c'est Mars, où il y a un an et demi, j'ai pu prouver qu'il y avait des aurores bleues sur Mars. Si bien qu'un cosmonaute qui marche sur le sol rouge de Mars, il lève la tête et il voit, parce qu'elles sont visibles et elles sont assez intenses, des aurores bleues, vertes et rouges dans le ciel.
Ouais. Et comment vous avez fait pour définir ces couleurs que verrait potentiellement donc un astronaute sur Mars?
Ça a commencé il y a une dizaine d'années où une équipe française à laquelle je participais a découvert qu'il existait des aurores dans l'ultraviolet sur Mars avec un petit instrument qui s'appelle SPICAM à bord de Mars Express. Et il se trouve que j'ai inventé un simulateur d'aurores boréales qui s'appelle la Planetarella et j'ai voulu retrouver les mesures de Mars Express avec ma Planetarella. Et donc j'avais bardé mon instrument, mon simulateur, qui est un instrument grand public, hein. Je l'avais bardé d'instruments pour observer l'ultraviolet, et à ma grande surprise, j'ai vu du bleu. Donc je me suis rendu compte que j'étais un imbécile, parce que c'était quelque chose que j'aurais dû savoir. Et ensuite, j'ai refait les calculs sur Mars, et j'ai pu prouver qu'effectivement, sur Mars, là où il y a un petit peu de champ magnétique, Mars a eu un champ magnétique très intense il y a 3 milliards et demi d'années, ce champ magnétique s'est éteint, mais localement, là où il y a du fer, par exemple dans le sol, il reste de l'aimantation. Et à ces endroits-là, côté nuit, dans l'hémisphère sud essentiellement de Mars, il y a des aurores bleues, comme dans ma Planetarella.
Alors justement, c'est quoi exactement la Planetarella? Puisqu'on en parle, on fait une petite parenthèse à ce sujet-là. Ça, c'est une expérience que vous aviez menée pour le grand public et qui permet au fond de voir des aurores polaires assez facilement maintenant?
Absolument, oui. Imaginez un aquarium qu'on retourne, on fait du vide dedans et le vide qu'on fait, c'est celui qui règne aux altitudes des aurores boréales au-dessus de 80 km d'altitude. Et puis à l'intérieur, j'ai mis des sphères qui représentent le soleil ou la planète et puis dans les sphères, j'ai mis un aimant et je tire de l'électricité d'une sphère qui devient le soleil, on voit sa couronne solaire, on voit les trous coronaux et cette électricité est conduite vers une autre sphère qui devient une planète qui reçoit toute cette électricité solaire et on voit tout à fait ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, les zones sur lesquelles il y a les aurores, près du pôle magnétique, les ovales auroraux, et les interactions qui se passent aussi plus près du pôle, on voit toutes ces particules se concentrer et allumer des aurores boréales sur la planète.
Ah oui, donc on peut en commander et les voir comme on le souhaite finalement, grâce à ce procédé.
Voilà, sans qu'il fasse moins 30 degrés dehors.
Oui, évidemment, oui. Alors, Fabrice Mottez, vous avez fait une sorte de classification des aurores polaires, en fait. On peut distinguer plusieurs familles différentes.
Je l'ai résumé dans mon livre. Il y a eu pas mal de tentatives. Dans les années 30, on a fait une classification extrêmement détaillée des aurores, que je n'ai jamais vue servir à rien, parce qu'elle était fondée juste sur leur aspect visuel et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe autour. Et ça, on a pu le faire depuis l'ère spatiale. Alors actuellement, il y a une classification où on pourrait mettre quatre catégories principales, qui sont les arcs auroraux. C'est ces arcs très spectaculaires pour lesquels on éventuellement on va voyager, on va faire un voyage touristique pour les admirer.
Très brillant, c'est ça?
Très brillante, faisant des dessins dans le ciel. Voilà. Il y a les aurores diffuses qui sont moins intenses, qui sont beaucoup plus étendues, en fait, qui sont pas tellement remarquables, mais qui, sur le plan des processus énergétiques en jeu, sont en fait aussi importantes que les arcs auroraux. Mmh. Et puis, il y a des aurores un petit peu spéciales. Par exemple, il y en a qui s'allument et qui s'éteignent, enfin, disons, qui ont des variations quasiment périodiques de leur luminosité, qu'on
c'est
appelle
les pulsantes.
Ouais. On a même des clignotantes. Alors, celles-là, on les voit, elles clignotent vite, mais on le perçoit pas facilement à l'œil, c'est pas le vert qui clignote. Mmh. Et puis, il y a les aurores noires, qui sont en fait des chemins où il n'y a absolument pas d'aurore, au milieu d'aurores diffuses ou même entre des arcs auroraux, et qui sont également très intéressantes. C'est des aurores par absence d'aurore, en fait.
Alors là, il y a une photo magnifique dans votre livre, justement. Vous nous décrivez un petit peu, c'est un vortex, c'est ça, qui a été pris en photo.
Oui.
En Norvège, dans un fjord norvégien.
Quand on va observer les aurores, comme le disait Jean, on peut les voir pendant des heures. Il y a une phase où on voit des aurores calmes, qui peut durer très longtemps. Donc on voit qu'il y a des aurores calmes, on sait que ça vaudra le coup d'observer la nuit. Maintenant, à un moment, on s'ennuie à les voir, parce qu'elles ne bougent pas tellement, elles se déplacent lentement vers le sud quand on est au nord, et c'est tout. Et puis, il y a un moment, il se passe quelque chose dans l'espace, et à ce moment-là, les aurores s'agitent, prennent des formes beaucoup plus compliquées, deviennent beaucoup plus lumineuses. Alors c'est ce qu'on appelle en physique aurorale la phase de déclenchement et la phase d'expansion. Et c'est là qu'on voit la danse incroyable avec des phénomènes qui, parfois en quelques secondes, des augmentations de luminosité qui traversent un arc. Enfin, dit comme ça, c'est pas génial, mais à voir, c'est absolument fantastique. Et cette phase d'expansion peut durer typiquement une demi-heure. Après, il y a une phase de recouvrement où les choses reviennent un petit peu au calme. C'est le moment où on voit apparaître les aurores pulsantes, les choses comme ça.
Ouais. Et cette danse, justement, elle est créée à partir de quoi alors ? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette manifestation-là ?
Alors, cette danse, on en comprend les grandes lignes. On n'en comprend pas encore les détails. Quand c'est dans la phase de, par exemple, de déclenchement et d'expansion qu'on voit ces grands vortex qui passent souvent, qui se déplacent vers l'ouest. Et là, il y a des théories pour expliquer ça. C'est un voyage qui peut durer quelques minutes, donc on la verra traverser le ciel de là où on est en 30 secondes, une minute. C'est merveilleux à voir, merveilleux. C'est comme une vague qui déferle, et ça a une majesté fantastique. On l'explique en termes de phénomènes de physique des plasmas qui se passent non pas dans l'ionosphère, mais à des milliers de kilomètres au-dessus, là où les particules qui provoquent les aurores sont accélérées. Parce qu'en fait, les aurores, c'est juste un écran qui exprime, si je puis dire, qui traduit en fait l'arrivée de particules qui ont été accélérées à plus haute altitude dans l'espace.
Jean-Louis Holsten, on va explorer avec vous justement le cheminement depuis le Soleil jusqu'à nous, évidemment, et qui est à l'origine de ces aurores boréales, avec d'autres messages pour vous dans un instant sur franceinter.fr.
Stupid Girl, Garbage à l'instant, et Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré.
La Tête au Carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Welcome to Iceland.
Hi. We're from England.
Vous venez d'Angleterre?
Because we hear the scenery is amazing.
Ah, on a entendu dire que les paysages étaient magnifiques.
Oui. Also, we want to see the Northern Lights.
On voulait voir aussi les aurores boréales.
J'espère.
Pour l'instant, ouais. Ce que nous avons vu, hein, ça nous plaît beaucoup.
Bonne chance pour les Northern Lights, les aurores boréales.
Merci. 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 Vous aussi.
Voilà, on se déplace de loin pour aller voir les aurores boréales quand on a la chance de pouvoir tomber dessus. Fabrice Mottès, il y a quand même des saisons qui sont plus propices à leur observation ou pas?
Ce qui est intéressant, c'est les moments où il fait nuit. Y aller en hiver, c'est bien. Maintenant, il faut aussi composer avec la météorologie. Mm-hmm. D'un point de vue touristique, je dirais que les deux bons moments de l'année, c'est la fin du mois de septembre ou le début d'octobre et le mois de mars, parce qu'on est près des équinoxes. On peut à la fois profiter de journées qui durent 12 heures et donc se promener, profiter de la nature, et la nuit, observer les aurores.
Jean-Louis Lundsten, est-ce qu'on peut faire une météo maintenant assez précise des aurores ou pas?
On commence. La discipline qui s'occupe de les prévoir s'appelle météorologie de l'espace. Elle prévoit bien plus que les aurores boréales parce que les aurores, c'est juste un tout petit bout du mécanisme et il y a beaucoup, beaucoup d'impacts qui vont bien au-delà du tourisme sur les télécommunications, les lancements de fusées, tout un tas de choses.
Ouais.
Et donc, on travaille très, très, très fort à prévoir l'activité solaire et tous les impacts, y compris les aurores boréales sur la Terre. Et maintenant, on y arrive de mieux en mieux. Pour les aurores boréales, on est capable maintenant, quelques jours en avance, sans trop se tromper, de dire, là, il va y avoir quelque chose et ça va être suffisamment fort pour allumer des aurores visibles.
Alors, expliquez-nous tous les deux, évidemment, ce processus. Qu'est-ce qui se passe alors depuis le Soleil jusqu'à nous pour qu'on puisse observer ces aurores boréales? Qui veut commencer? Fabrice Mottès, peut-être? On part du Soleil. Qu'est-ce qui se passe?
On part du Soleil. Le Soleil nous envoie beaucoup de lumière, mais il nous envoie aussi un peu de matière. C'est un vent qu'on appelle le vent solaire, qui est composé, non pas d'atomes, mais de morceaux d'atomes, soit des noyaux d'atomes, soit des électrons, qui sont des particules qui sont sensibles au champ magnétique. Ce vent est envoyé par le Soleil à une vitesse qui arrive au niveau de la Terre. Ces particules arrivent à peu près à entre 400 et 800 km par seconde. C'est assez rapide. Elles ne mettent que 3 jours pour faire le voyage du Soleil jusqu'à la Terre. Le vent qui arrive au voisinage de la Terre rencontre le champ magnétique de la Terre. Parce que la Terre, c'est comme un gros aimant. Le champ magnétique, c'est ce qui oriente l'aiguille des boussoles. Et il s'étend dans l'espace. Donc quand ce vent rencontre le champ magnétique de la Terre, il est dévié par le vent. La plupart du vent est repoussé et s'écoule le long d'une zone contrôlée par le champ magnétique qu'on appelle la magnétosphère, zone sous contrôle du champ magnétique. Mais il y en a une partie qui rentre, une petite partie, quelques pourcents. Et cette partie du vent solaire qui rentre dans l'environnement magnétisé de la Terre est piégée, il est coincé là. Et on a souvent dit qu'il rentre par 2 trous qui sont situés au-dessus des pôles, ça c'est vrai, qu'il suit les lignes de champ et qu'il arrive, qu'il allume des aurores. On a pensé ça pas très longtemps, on l'a dit beaucoup plus longtemps, certaines personnes continuent de le répéter, c'est faux. En fait, une fois qu'il est piégé, il va se réfugier dans les régions où le champ magnétique est le plus faible, parce qu'en fait, ces particules chargées aiment bien se mettre là où le champ magnétique est faible. C'est du côté nuit, du côté opposé au soleil, ce qui est paradoxal. Ça veut dire qu'on a de la matière qui vient du Soleil qui va se stocker dans l'environnement de la Terre à quelques dizaines de milliers de kilomètres du côté nuit. Et puis, cette région, elle se remplit progressivement de particules venant du vent solaire. Et elle se remplit, puis c'est comme un sac. Hein. Si on le remplit, il y a un moment, il déborde. Alors, soit il déborde, soit il craque. Alors, ça déborde toujours un peu, c'est ce qui fait ces aurores calmes qu'on peut voir pendant des heures. Et puis, il y a un moment, il est tellement rempli, qu'il craque. Et ces moments où il craque, c'est assez brutal, ça prend quelques minutes, c'est ce qu'on appelle la phase de déclenchement. Et c'est là qu'on voit apparaître des arcs auroraux brillants, très spectaculaires. Et ensuite, l'endroit où, si on reprend l'analogie du sac, c'est comme s'il y avait une déchirure. La déchirure se propage dans toute la zone du côté nuit de la Terre, sous contrôle du champ magnétique. Et au fur et à mesure que ça se propage, eh bien, il va y avoir de nouveaux arcs auroraux qui vont être créés. Alors c'est ce qu'on appelle la période d'expansion. Et c'est là qu'on a vraiment beaucoup d'aurores très belles, des phénomènes rapides, beaux à observer, sur des grandes régions qui peuvent occasionnellement descendre même à des latitudes comme celle de la France.
Jean-Louis Lundsten, du coup, ces aurores boréales, elles sont directement liées à l'activité aussi du Soleil?
Oui, Le soleil envoie en permanence le vent solaire dont parlait Fabrice. Hein, tout le temps, il y en a un. Mm-hmm. Pour qu'on les voit avec les yeux, les aurores boréales, il faut qu'il en envoie quand même des plus grosses bouffées. Alors, on dit que le soleil est actif. Et cette activité-là, elle peut varier en quelques jours, elle peut varier en quelques semaines, elle peut varier en quelques années ou quelques siècles. Il y a plein de cycles différents solaires ou plein de façons de faire varier l'activité solaire. Et c'est totalement lié à cette activité solaire.
Alors, on entend souvent dire que ces aurores sont liées aux tempêtes solaires. Est-ce que c'est vrai ça ou pas?
Les tempêtes solaires, oui, tout à fait. Oui. Si le soleil envoie une grosse bouffée de particules, il y a plusieurs moyens de les envoyer, hein, une grosse bouffée de particules, et que cette bouffée de particules intercepte l'orbite de la Terre, voilà, super, tout s'allume. Oui. Et pour envoyer ces grosses bouffées de particules, il y a plusieurs niveaux auxquels le soleil peut l'envoyer, relativement près de la surface, alors on appelle souvent ça des éruptions solaires. Mmh. On peut l'envoyer aussi depuis la couronne, on appelle ça des éjections de masse coronale. Enfin, il y a vraiment plein d'endroits où on peut l'envoyer. Et puis, il y a aussi des interactions entre le champ magnétique contenu dans ce vent solaire et le champ magnétique de la Terre. Mais ça, c'est peut-être un petit peu technique. Mmh.
Fabrice Mottez, Jean Parmel nous dit, est-ce qu'on n'est pas exposé à des rayonnements cosmiques lors d'observations répétées d'aurores boréales? Est-ce qu'il y a un danger particulier ou pas?
Comment dire? Oui, mais c'est une cause parmi de très nombreuses autres causes. Par exemple, il y a une source de rayonnement cosmique qui nous concerne plus nous. C'est des rayonnements cosmiques qui sont piégés dans le champ magnétique de la Terre, dans ce qu'on appelle les ceintures de radiation, mmh. et qui sont à plus basse latitude. Ça veut dire que les rayons cosmiques, quand il y a des fuites, c'est pas dans les régions aurorales qu'ils tombent, mais plutôt dans les régions de latitude moyenne, comme la France. En fait, dès qu'on prend l'avion, plus on monte en altitude, plus on est exposé aux rayons cosmiques. Et dans ce cas-là, il y a énormément de sources de rayons cosmiques auxquelles il faut faire attention. Donc les ceintures de radiation en sont une. Les aurores en sont également. Donc quand il y a des prévisions de météorologie spatiale, on s'en sert aussi pour la santé des équipages. Et c'est aussi pour ça qu'on limite le nombre d'heures de vol des personnels navigants, notamment pour pas qu'ils soient exposés aux rayons cosmiques naturels, hein, il n'y a pas que ceux des aurores, trop longtemps. Trop
un souvent. Témoignage d'Annick qui nous dit ceci, j'en ai vu une fois, je ne l'oublierai jamais, j'étais hôtesse à bord d'un avion, c'était inattendu, magique, une image gravée en moi comme une apparition céleste, beauté, calme, volupté, poésie, image refuse contre la dureté du quotidien, contre la violence, contre la douleur, inoubliable cadeau du ciel. Mais dis donc, ça fait vraiment cet effet-là alors de voir des aurores?
Quand je prends l'avion, que je reviens de Californie, je demande toujours à être assis côté hublot, à gauche. Ouais. Alors en général, on ne comprend pas pourquoi c'est à gauche, mais c'est pour voir des aurores, parce que ouais. c'est au nord qu'on les voit le mieux sur ce vol-là.
Et il y a une photo d'ailleurs, hein, prise d'un avion dans votre livre. Jean-Yves Stein, oui, vous voulez compléter?
Oui, ce que votre auditeur appelle le rayonnement cosmique, c'est le même vent qui est envoyé qu'envoie le soleil, mais envoyé par les étoiles. Alors, c'est du vent stellaire, du coup. Oui. Et comme les étoiles sont loin, celui qui est parti très très lentement des étoiles, eh ben, il n'est pas arrivé jusqu'à nous, parce qu'il a été arrêté en cours de route. Et celui qui arrive jusqu'à nous, c'est le vent solaire qui est parti le plus vite de ces étoiles. Et on en est en permanence bombardé. Quand le soleil, de temps en temps, envoie une grosse bouffée de particules très 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 rapides, on l'appelle aussi du rayonnement cosmique.
On va écouter ce document de 1959. Voilà ce qui s'est passé dans le ciel de Lille.
Midi Actualité, une émission de Maurice Hutin et Paul-Louis Mignon.
Hier soir, grande surprise à Lille. Les Lillois contemplaient l'obscure clarté qui tombe des étoiles. Mais je vais laisser le soin à Claude Laplot de nous en parler.
Les Lillois qui, la nuit dernière, vers 23h30, prenaient le frais aux terrasses des cafés, ont été les témoins étonnés d'un phénomène difficilement identifiable parce que rare. Le ciel s'était subitement coloré dans le secteur compris entre le nord et le nord-ouest de traînées roses puis rouges, traînées qui se présentaient sous forme de rayons. Il s'agissait d'une aurore boréale qui, on le sait, se distingue par le fait qu'elle est extrêmement changeante et colorée. Comment peut-on expliquer ce phénomène qui se manifeste en principe auprès des pôles? Eh bien, c'est ce que l'on recherche actuellement, et parmi les hypothèses avancées, on souligne que cette aurore boréale que nous avons observée peut être en relation avec l'explosion d'une bombe H. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'une simple hypothèse.
Voilà, et ça c'était en juillet 1959, Fabrice Mottez.
Hypothèse non confirmée.
Un commentaire là-dessus. Alors vous racontez une anecdote incroyable dans votre livre, c'est qu'on est passé très très près de la Troisième Guerre mondiale à cause de, d'aurores boréales, à cause de leur exploration justement.
Ce qui s'est passé, c'est que donc c'est dans les années 90, après la chute du mur, il y a eu un tir de fusée dans une aurore. C'est des choses qui se font régulièrement. Les fusées qui servent à envoyer du matériel de mesure dans les aurores sont les mêmes que celles qui servent, enfin à peu près les mêmes que celles qui servent à envoyer des bombes atomiques.
Ouais.
Donc quand on tire une fusée comme ça, on prévient tous les états-majors. Tous les états-majors du monde se passent l'information pour pas qu'il y ait de fausse alerte. Il s'est passé à ce moment-là, donc c'était un moment un petit peu difficile politiquement en Russie, et il y a eu une rupture de chaîne de l'information.
Ouais.
Et les radaristes russes ont vu cette fusée. L'information était à l'état-major, mais eux, ils ne l'avaient pas. Et pendant une dizaine de minutes, ils se sont demandé si c'était le début d'une attaque nucléaire vers la Russie.
Ouais. Et Boris Eltsine avait quasiment le doigt pointé sur le bouton nucléaire.
Ce que je raconte dans mon livre, c'est que ça se passe dans... Boris Eltsine est alerté et il a la valise. Et finalement, il n'a pas appuyé sur le bouton parce que dans les derniers moments, les radaristes ont dit... Finalement, on connaît mieux la trajectoire, elle n'est pas dangereuse.
Ouais, il s'en est fallu très très peu, c'est à 2 minutes près
voilà.
Apparemment. Voilà, une anecdote autour des aurores boréales. On peut compléter évidemment avec votre livre, Aurore boréale, la Terre sous le vent du soleil, qui est paru aux éditions Belin. Et puis Jean-Yves Le Sten, chasseur d'aurore aux éditions de la Martinière, ou encore La lumière en lumière du photon à l'internet aux éditions ODP Science. Et merci aux équipes de Grenoble qui nous ont permis ce duplex. Merci beaucoup à tous les deux.